Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Faut-il vulgariser la philo, simplifier la théorie, rendre accessible une discipline réputée austère? Comment faire comprendre au plus grand nombre la phénoménologie de Merleau-Ponty, le Conatus de Spinoza, l'idéalisme absolu d'Hegel ou encore le Dasein d'Heidegger, concept évidemment familier aux auditeurs de France Inter? La philosophie est partout, à la une des hebdos, à la radio, dans des ouvrages grand public, mais dans le même temps, certains débats qui agitent les chercheurs restent confinés à des cercles hermétiques, à la vulgarisation. La philosophie doit-elle s'enfermer dans une quête d'érudition scolaire et scolastique, ou doit-elle nous permettre de mieux vivre, comprendre les autres, notre société, le monde et même les mystères de l'univers? Dites-nous s'il faut vulgariser la philosophie, racontez-nous vos souvenirs de cours de philo, fréquentez-vous les conférences destinées au grand public, 01 45 24 7000, grand bien vous fasse @radiofrance.com et sur notre page Facebook. Bonjour Éric Libio.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Rédacteur en chef à l'Express, en bonne forme, plus joyeusement bougon que jamais.
Voilà.
Et de retour pour une seconde saison de vos petites mythologies d'un objet de la vie quotidienne. Il y a quoi au menu en fin d'émission?
Eh bien écoutez, lundi c'est la rentrée, donc lundi c'est cartable et sac à dos.
Quel à propos, c'est formidable.
Ah ben, un sens de la formule incroyable.
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
De retour après un bel été en quotidienne sur France Inter, on se fait des films, toujours disponibles en podcast. Et on vous retrouve pour une nouvelle saison de chronique, la vie des films, quand le cinéma permet de mieux comprendre nos existences. À l'affiche cette semaine.
Tout ce qui brille n'est pas d'or, évidemment.
À tout à l'heure.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Tout se pense, tout se questionne, tout doit être interrogé, réfléchi, tout est sujet de réflexion, parce que justement tout est sujet philosophique. N'est-ce pas Bortolin?
Oui monsieur.
Même les montres?
Ah, les montres, peut-être pas.
Et pourquoi pas? Avec une montre on voit le temps qui passe, et le temps c'est quoi?
Bah, c'est de l'argent.
Éventuellement, mais c'est aussi un sujet philosophique. Ce qu'elle vous montre Bortolin, c'est le compte à rebours de votre vie. À chaque seconde que la trotteuse vous montre, c'est une seconde vécue que vous ne vivrez plus jamais et qui vous a rapproché de votre mort. Elle vous rappelle que votre vie s'écoule comme le sable dans un sablier. À chaque instant, elle vous dit « N'oublie pas que tu vas mourir ».
Un extrait de « Pas son genre » de Lucas Bellevaux en 2013, hein, qui mettait en scène un professeur de philosophie qui tombait amoureux d'une coiffeuse dans le nord de la France. Faut-il vulgariser la philosophie? C'est la question que je pose à nos invités. Bonjour Guillaume van der Weyde.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, enseignant à Sciences Po, et vous avez publié en juin dernier une tribune dans le JDD qui nous a donné envie de faire cette émission ce matin. Bonjour François-Xavier Bellamy.
Bonjour.
Normalien, agrégé de philosophie, auteur des Déshérités, indisponible en poche, et vous proposez des soirées philo deux fois par mois au Théâtre Saint-Georges à Paris, et ça se passe lundi, et vous êtes par ailleurs maire adjoint à Versailles. Bonjour Fabrice Midal.
Bonjour.
Philosophe, écrivain, éditeur, grand promoteur de la méditation en France, et vous êtes auteur en poche de Comment la philosophie peut nous sauver. Bonjour Aïdia Ndiaye.
Bonjour.
Vous êtes prof de philo en région parisienne.
Oui.
Au Vésiné, c'est ça?
C'est ça.
Et alors, est-ce qu'il vous arrive de vulgariser votre matière, hein, la philo, comme le personnage du film Pas son genre?
Auprès de mes élèves, bah oui. Enfin, je ne sais pas si c'est de la vulgarisation au sens strict, parce que c'est un enseignement. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, l'enseignement que je prodigue, si je puis dire, s'appuie beaucoup sur des choses du quotidien, des séries, d'autres disciplines. Voilà, j'essaie d'élargir le champ en fait de référence et de réflexion pour leur montrer que la philosophie, comme du coup le dit le professeur dans l'extrait, s'applique à tous les objets.
Aïda Ndiaye, vulgariser, c'est abaisser, trahir?
Non, je pense pas. Je pense que c'est rendre accessible. Donc de cette manière, c'est nécessaire pour que les élèves puissent s'en saisir, parce qu'on a peu de temps pour enseigner. Et puis, moi, je pense que ça peut être aussi très utile, en dehors, évidemment, du champ scolaire, pour les petits-enfants. Ça s'est beaucoup développé aussi, la philosophie pour les enfants. Et c'est vrai que c'est devenu quand même une discipline qui est beaucoup plus présente dans les librairies, dans les publications. Parce que je pense, réellement, le fond, c'est qu'elle permet de se saisir de l'intégralité du réel, en fait, et de le penser.
Guillaume van der Weyde, un jour, un de vos élèves se demande si votre cours était bel et bien un cours de philosophie.
Oui, c'est effectivement ce qui m'a donné l'occasion d'écrire cet article. Alors, moi, ce que j'adore dans la philosophie, j'ai pas toujours fait de la philosophie, mais j'y suis revenu avec grand plaisir, c'est qu'on peut parler de tout, n'importe comment, avec n'importe qui. L'idée, c'est de susciter la réflexion, de susciter l'implication. C'est pour ça que souvent la provocation, le scandale sont des armes très, très à la fois puissantes et jouissives, pour ensuite remonter aux idées, aux distinctions et aux choses qui peuvent paraître spéculatives, mais qui sont intéressantes quand on s'y implique avec des choses concrètes au départ.
François-Xavier Bellamy, vulgariser, c'est abaisser la philosophie ?
En fait, le terme est peut-être étrangement choisi concernant la philosophie, puisque par définition, la philosophie appartient au commun. Elle est un exercice pour penser le commun avec les mots de la langue ordinaire. Et si la philosophie se fait parfois technique dans son expression, c'est parce que à un certain point d'abstraction, il est nécessaire de se donner des outils pour penser des objets qui peuvent devenir assez éloignés de notre expérience immédiate. Mais fondamentalement, la philosophie appartient à toute intelligence qui tente de comprendre le monde autour d'elle. Et par conséquent, dans l'expression de vulgariser, on décrit sans doute un mouvement inapproprié parce que la vulgarisation consiste à rendre commun ce qui ne l'est pas, alors que la philosophie est par principe un bien commun, pourrait-on dire, et qu'il appartient peut-être aujourd'hui de la faire ressortir de ces arènes universitaires pour la rendre au grand public.
Fabrice Midal.
Oui, c'est... La figure essentielle de la philosophie initiatique, c'est Socrate qui parle à tout le monde sur la place publique et qui interroge, oui, vraiment tout le monde. Donc je crois que c'est pas une question dont il y aurait quelque chose de très rigoureux et scientifique réservé à quelques-uns qu'il faudrait rendre public aux gens. Mais au fond, la philosophie, c'est d'abord quelqu'un qui parle à quelqu'un. Et je crois que la force de la philosophie aujourd'hui, c'est qu'on est dans un temps où il y a des experts qui parlent au nom de l'universel à l'universel, et que le philosophe parle toujours à quelqu'un. Et que cette parole-là, qui interroge, c'est ça que faisait Socrate, qui interroge quelqu'un, c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est une interrogation sur notre existence.
François-Xavier Bellamy.
Il faut se souvenir qu'effectivement, la figure de Socrate est une forme de rupture à l'égard des configurations précédentes du rapport au savoir qui se jouaient notamment dans les religions à mystère. C'est-à-dire qu'il y avait des initiés qui rentraient dans la connaissance des mystères, et la philosophie rompt avec cette logique de l'initiation pour faire le pari du logos, de l'intelligence rationnelle qui appartient à chaque être pensant. Et c'est cela précisément qu'il faut sans doute retrouver aujourd'hui.
Aïda Ndiaye.
Oui, bah en effet, je pense que comme je le disais et comme ont dit les autres intervenants, le terme de vulgarisation peut sembler négatif, mais en réalité, c'est quand même ce qui permet de montrer ce qu'est l'essence de la philosophie et le fait que en effet, c'est une discipline qui s'applique à tous les champs, à tous les domaines et qui s'adresse à tout le monde en fait.
Rassurez-moi, Aïda Ndiaye, la liaison est assez mauvaise. Vous n'êtes pas dans votre salle de bain, vous êtes en...
Non, je suis au lycée, c'est la pré-rentrée.
Merci d'ailleurs d'être avec nous en cette matinée de rentrée des profs. Le prof de philo de notre jeune collaborateur Antoine Vandeville se targuait d'être professeur de philosophie et non pas prof de philo, une dénomination selon lui dévolue pour lui au magazine de psychologie féminine et aux lectures de plage. La philo contre la philosophie. Alors, je précise que ce professeur a donné envie de faire de la philosophie à notre jeune collaborateur Antoine. Guillaume van der Weyde.
Alors, vous mentionnez, c'est intéressant, le commun et d'autre part les mystères. J'ai l'impression qu'il y a un paradoxe et un renversement qui est que on fait de la philosophie quelque chose d'extrêmement hiératique, formel, spéculatif, élevé, au contraire d'un langage commun, d'un langage vulgaire qui serait accessible et qui dirait le vrai ou qui dirait les objets quotidiens. J'ai l'impression que c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que quand je fais cours, la philosophie me permet de déconstruire un certain langage qui peut paraître vulgaire ou spontané et qui est en fait extrêmement formaté, et notamment par les réseaux sociaux et par Internet. Ce qui fait qu'on me reprend souvent en me disant « mais comment vous pouvez dire ça ?» De sorte que finalement j'ai l'impression d'être celui qui parle vrai et qui s'érige contre un discours formaté.
Sur la distinction philosophie, philo, François-Xavier Bellamy, c'est des débats qui agitent certains professeurs de philosophie.
Je crois qu'il n'y a pas de distinction très marquée. En revanche, ce qui est vrai, c'est la distinction qui m'apparaît plus pertinente. J'ai toujours été très gêné quand il m'arrivait d'être décrit comme un philosophe, parce que je crois que ça n'est pas un titre. le vrai titre auquel je puis légitimement m'identifier, c'est celui de professeur de philosophie. Quant à être philosophe, pour le coup, précisément, et c'est le cœur de notre réflexion d'aujourd'hui, nous sommes tous appelés à le devenir.
Merci beaucoup Aïda Ndiaye d'être intervenue au téléphone. Vous pouvez appeler le 01 45 24 7000 et nous contacter également par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. Allez, il est déjà l'heure de retrouver Guillemette Odissino.
La vie des films.
T'as été formidable, tu sais.
Bon, allez, faut pas rester là, voyons, corneille. Va surveiller la fricassée.
Sur France Inter.
Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé.
Guillemette Odissino, un film qui nous permet de mieux comprendre nos vies cette semaine. Tout ce qui brille, qui met en scène deux philosophes sans le savoir.
Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi.
On est les deux seuls à danser dans le studio, Guillaume.
Ah oui. Il y a une troisième philosophe sans le savoir qui est là, on lui rend hommage, c'est quand même Véronique Sanson. Oui, alors c'est Tout ce qui brille de Hervé Mimran et Géraldine Nakache, c'était sorti en 2010. Ça raconte l'histoire de Élie et Lila, ces deux filles qui habitent à 10 minutes de Paris. Elles habitent à 10 minutes de Paris. Et dans leur esprit, donc, elles sont à 10 minutes de la vraie vie. À 10 minutes de la gloire, à 10 minutes aussi des boutiques de mode. Et ça va être le trajet parallèle de ces deux filles qui, et en fait, c'est un film qui va montrer les petites humiliations, les petites hontes que l'on se crée et que l'on crée aux autres assez douloureusement quand, en fait, on veut être quelqu'un d'autre sans finalement savoir vraiment qui on est. Sans s'être interrogé, sans avoir fait le cogito. Et par contre, ce petit parcours de honte et d'humiliation vont mener Élie et Lila à l'estime d'elles-mêmes. Et en fait, l'estime de soi, c'est vraiment un des sujets fondamentaux de la philosophie. C'est au centre, carrément, de la philosophie de Descartes, et c'est au centre aussi de la philosophie de Kant, qui dit que, en fait, l'estime de soi... Et oui, j'ai travaillé, cher Ali. Non, mais c'est intéressant, en fait, de regarder un film, et même de le montrer à ses adolescentes, pour leur dire, voilà, si tu humilies une copine à cause d'une paire de pompes à 600 euros que tu veux et qu'elle, elle n'aura pas, ou que tu ne regardes pas ton père avec fierté parce qu'il ne fait pas partie de ce monde-là, tu perds l'estime de soi, l'estime de toi-même, tu t'abaisses. Et ça, c'est vraiment au centre de Kant, de comment, en fait, gagner sa dignité, gagner son estime de soi. Et en fait, voilà, la logique de tout ça, la morale de tout ça, la morale, grand mot philosophique s'il en est, la morale, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut rester digne, même si on a envie, et en fait, d'une redingote à 600 euros, et surtout si cette redingote, elle est jaune avec des pois violets, même si la mode, même si autrui, l'enfer c'est les autres, hein, mais aussi, si autrui vous dit que c'est à la mode, restez digne de vous-même, ne l'achetez pas. Ou alors, au moins, achetez-la à votre copine.
Et je m'abstiendrai désormais de me moquer des vestes jaunes de Fabrice Midal.
Et montrez tout ce qui brille à vos filles. Montrez tout ce qui brille à vos filles et décryptez, comme vous le disiez, décryptez ce qu'il y a comme philosophie à l'intérieur.
Fabrice Midal.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien comment la philosophie consiste à désapprendre quelque chose. Et c'est ça que nous raconte le film. Et au fond, on a l'impression... toujours que la philosophie, c'est un savoir qu'on n'aurait pas. Mais d'abord, la philosophie interroge ce qu'on croit savoir et elle nous libère de cette manière-là. C'est pour ça que je disais que la philosophie peut nous sauver dans mon livre, parce qu'elle nous sauve justement de tout ce discours qu'on n'a plus le droit d'interroger et qui nous emprisonne.
La vie des films, de Guillemette
Odissino. C'est l'être contre le paraître.
C'est tous les vendredis dans Grand Bien Vous Fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière, Claire Destacan et Théo Denmat, avec l'aide d'Antoine Vandeville, et c'est réalisé par Eric Lenné. Faut-il vulgariser la philo? 01 45 24 7000.
Everybody loves somebody somehow. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody lost somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone.
Martin, Everybody Loves Somebody.
Un philosophe a dit un jour, lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt,
grand bien vous fasse,
quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs.
Un braver.
Sur France Inter.
10h24, faut-il vulgariser la philo? C'est notre thème ce matin avec une bande de professeurs de philosophie, de philosophes, Fabrice Midal, François-Xavier Bellamy et Guillaume van der Weyde. Bonjour Yaël.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous appelez de Paris. Vous êtes diplômée en philosophie politique et vous êtes présidente de l'association Le Mouton Numérique. Faut-il pour vous vulgariser la philo?
Alors oui, pour moi c'est justement essentiel. Enfin, je pense un peu comme. Enfin, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant et je voulais peut-être insister sur un fait. Qui est que j'ai aussi l'impression que même si, comme on l'a dit, la philosophie est de plus en plus présente dans les publications, etc., en même temps, bien souvent, ça reste une simple caution intellectuelle pour le débat public, et j'ai l'impression, mais ça peut-être que les intervenants auront une autre opinion, qu'on utilise la philosophie finalement pour parler de la théorie, et qu'après, une fois qu'il faut passer à la pratique, on va oublier un peu l'exercice philosophique et on va privilégier peut-être des réponses plus rapides, plus efficaces, souvent d'ailleurs techniques, et qui sont incompatibles avec le temps de la réflexion philosophique. Et à mon avis, il y a tout un effort à faire donc dans la vulgarisation aussi de sortir un peu la philosophie de son idéal abstrait. Et finalement de la faire partie prenante des solutions politiques qu'on peut aujourd'hui mettre en place, mais ce qui demande un travail en fait de long terme. Et voilà, et c'est notamment pour cette raison que nous avons fondé l'association du Bouton Numérique, qui en fait, à l'aide de la philosophie, essaye d'apporter un regard critique sur les effets sociopolitiques des nouvelles technologies et du numérique.
Constat très intéressant de Yaël, Guillaume van der Weyde.
Oui, tout à fait. Cette idée que la philosophie sert de caution intellectuelle, c'est effectivement une chose qu'on voit dans les médias, dans les discours. Et donc, les experts dont on parlait se servent souvent de cette discipline pour habiller ou pour valider une opinion qui est, au fond, préfabriqué, qui est déjà décidé. Il me semble qu'il y a dans la philosophie un risque fondamental. Et c'est ça, parfois, qui pose problème dans l'enseignement, c'est que on est censé faire apprendre quelque chose, on est censé transmettre quelque chose, et en réalité, ce qui se joue dans la philosophie, c'est moins une transmission qu'une action, quelque chose qui se fait ensemble, et donc un risque. Il me semble que la philosophie, si elle veut transmettre un message, elle se dénature. La philosophie, vous parliez de Socrate tout à l'heure, elle est essentiellement question, essentiellement problème, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne cherche pas des solutions, mais ça veut dire qu'elle prend le risque de ne pas trouver.
Fabrice Midal.
Je pense que cette caution intellectuelle, c'est juste. On oublie deux éléments qui me semblent décisifs de la philosophie, c'est qu'elle a un risque. Faire de la philosophie, c'est toujours un risque. C'est un risque de ne pas savoir, c'est un risque de sortir de ce qu'on sait déjà. Et la deuxième chose, si on repense à Socrate, c'est que la philosophie est une expérience mue par un enthousiasme, par Eros. Platon compare Socrate à un nouvel Eros. Et y a un on est enflammé par la question philosophique. Et je crois qu'on oublie ça. On oublie que la philosophie, c'est être enflammé par une manière d'interroger l'existence.
François-Xavier Bellamy.
Ce que disait Yaël à l'instant est très juste, c'est-à-dire la philosophie n'est pas simplement un exercice de pensée, mais elle n'a de sens que si elle transforme nos vies. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a un risque dans la philosophie, le risque de se laisser happer par la force encore brûlante de ces œuvres, de ces textes, de cette recherche qui finalement nous transforme. Si j'avais un tout petit point de divergence avec avec mes camarades à l'instant, c'est sur la place de la question. Je crois qu'on a souvent tendance à dire que la philosophie est d'abord un art de la question, et c'est vrai que la philosophie a pour premier produit en quelque sorte des questions, puisque dans la vie ordinaire, très souvent, nous ne nous posons pas de questions, et la philosophie nous oblige à nous reposer des questions. Mais les questions ne sont pas un but en soi. Le principe de la philosophie n'est pas seulement de déconstruire ou de se laisser exposer au risque du non-savoir, mais de faire de ce non-savoir le point de départ d'une recherche, et d'une recherche dont on peut espérer qu'elle nous conduise à apprendre et à nous laisser approcher de d'une vérité.
Yaël ? Merci beaucoup d'avoir appelé Yaël de Paris. Guillemette Odissino.
Je me demandais se poser des questions, quitte même miracle à trouver des réponses. Mais quand Yaël parlait de la philosophie, j'avais l'impression qu'elle se disait que la philosophie pouvait aussi essayer d'aider à chercher des réponses politiques. Mais est-ce que la philosophie, ce ne sont pas que des questions et des réponses individuelles? Est-ce que la philosophie peut être politique finalement? Parce que peut-on trouver une réponse ou même poser une question qui concerne le plus grand nombre?
Guillaume von der Weide.
Oui, je crois que c'est une expérience qui va être confirmée par mes collègues. Une des réponses les plus spontanées et les plus fréquentes qu'on a de la part des élèves, c'est « ça dépend des gens ». Et donc, en début d'année, souvent, je suis amené à dire « écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez en classe, bite, cul, con, chatte, mais pas « ça dépend des gens ». Pitié. Parce que « ça dépend des gens » n'est évidemment pas une réponse. « Ça dépend des gens », ça ne dépend pas des gens, puisque c'est une vérité. « Ça dépend des gens », mais ça dépend de quoi? Ça dépend de qui? Ça dépend pourquoi? Donc, ce relativisme de la philosophie, c'est un problème. Et il me semble qu'on ne peut pas mieux sortir de ce problème qu'en donnant la parole aux élèves, qu'en donnant la parole aux gens, quitte au risque de la cacophonie, au risque de la dispersion, pour ensuite, en frottant, en frappant, en concassant ces différentes opinions, trouver une sorte de point commun et construire des oppositions qui vont être acceptées par tous, parce que tous y ont participé.
François-Xavier Bellamy.
Et là, on retrouve effectivement la puissance subversive de la philosophie sur le terrain politique, et subversive sans doute aujourd'hui plus que jamais, parce que nous vivons dans une société, et là on a effectivement la même expérience, nous vivons dans une société qui... se nourrit de le relativisme est comme l'air que nous respirons. C'est-à-dire, nous avons tous intégré quelque chose comme l'idée que il n'y a pas de vérité absolue et que la vérité dépend de celui qui la pense. Ce qui, en soi, est absolument impensable. Ça n'a strictement aucun sens. Et nous en sommes d'ailleurs tous convaincus, notamment sur le terrain politique, puisque nos désaccords politiques disent bien notre certitude qu'il y a quelque chose qui nous relie comme une vérité qu'aucun d'entre nous ne possède, mais que nous avons pour principe et pour but de chercher ensemble. Et c'est précisément ce qui nous rattache les uns aux autres.
Guillaume van der Weide, vous avez choisi, je vous cite, « de faire de la philosophie plutôt que de l'enseigner, de dialoguer plutôt que d'instruire, de penser plutôt que de dispenser un savoir ».
Oui, alors bon, c'est des oppositions évidemment un peu caricaturales.
Un peu, mais bon.
ça permet de lancer le débat et ça permet d'opposer, je dirais, effectivement deux versions. Une version, on pourrait dire top-down, une version bottom-up. C'est-à-dire le top-down, c'est le professeur dans sa tour d'ivoire qui dispense un cours magistral. Alors que le bottom-up, c'est justement partir des élèves de leurs questions et essayer de construire et de remonter. Et donc ce que je fais effectivement en classe, c'est que je pose une question. Moi, j'ai une pratique assez spéciale, c'est que qui m'a été reproché et parfois on m'en a félicité. En général, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est de poser une question, donc qui soit un sujet de bac. J'aborde, donc on a un programme qui consiste en notions, la conscience, le politique, etc. Je prends un sujet de bac, je lance la question, par exemple, peut-on être libre tout seul? Et je pose la question aux élèves. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en comprennent? Évidemment, ils en comprennent toujours quelque chose. Ils vont proposer des choses, ils vont dire des exemples, des problèmes, et à partir de ces éléments de réponse, je vais essayer de construire, ça peut prendre une heure, deux heures, je vais essayer de construire une problématique, c'est-à-dire une opposition, un grand problème, pour articuler ces différentes opinions et construire un cours. Et donc, j'oppose cette façon de faire qui parte de la parole de l'élève pour essayer de construire une réflexion qui l'implique, mais qui prenne le risque d'une parole incohérente, qui prenne le risque d'une parole scandaleuse ou qui rentre pas dans le cours, pour ensuite monter vers des distinctions et des concepts philosophiques.
Chantal nous dit par courriel, 15 000 personnes au cours gratuit de Michel Onfray. En juillet, au Zénith de Caen, les journalistes n'en parlent pas. Bah si, on en parle.
Je fais partie de ceux qui estiment que le vocabulaire philosophique doit être utilisé avec parcimonie. Bien sûr qu'il y a un vocabulaire spécialisé et qu'on y consent quand il s'agit du notaire, de l'avocat, du médecin, et ou même du sportif. Et on devrait pouvoir y consentir quand il s'agit du philosophe, mais l'usage sans abus me paraît nécessaire parce que, effectivement, on peut dire des choses importantes en philosophie en utilisant le vocabulaire de tous les jours. Il y a chez Montaigne des mots extrêmement simples, la vie, l'amour, la mort, l'amitié, la souffrance, la douleur, le bonheur, les honneurs, enfin toutes ces choses-là, ce sont des choses extrêmement importantes abordées par Montaigne sans le secours d'un vocabulaire philosophique ou sans le secours d'un gros mot philosophique.
Usage sans abus du vocabulaire philosophique, sans le secours de gros mots philosophiques, nous dit Michel Onfray. Vous êtes d'accord avec ça, François-Xavier Bellamy ?
Oui, bien sûr. Ça rejoint ce dont nous parlons à l'instant, c'est-à-dire la façon de pratiquer la philosophie avec toutes les intelligences qui veulent bien se prêter à cet exercice. Mais je dirais, c'est intéressant d'échanger sur nos pratiques. Après tout, c'est effectivement la pré-rentrée aujourd'hui. Moi, j'assumerais plutôt la dimension du cours magistral si je voulais être provocateur. Évidemment, tout est forcément nuancé et beaucoup plus nuancé que nous ne le pourrons dire ce matin. Mais ce que je crois malgré tout, c'est que ce dont nos élèves ont besoin, et ce dont le grand public a parfois besoin aussi, c'est de pouvoir retrouver le contact avec des textes, avec des œuvres, avec des auteurs qui justement transforment notre propre parole. Si on revient à la question des mots, en fait, on verra que les mots de la langue ordinaire, ils prennent un sens plus fort lorsqu'ils ont été nourris et éclairés par le vocabulaire d'un Platon, d'un Aristote, d'un Kant, d'un Hegel. Or, cela précisément, personne ne peut y accéder immédiatement, et c'est le travail très modeste du pédagogue que de pouvoir réexposer les intelligences à ces sources encore vivantes.
Fabrice Midal.
Moi, je suis pas prof en lycée, mais j'organise régulièrement des séminaires de méditation où j'invite des philosophes. Et ce que je constate, d'abord, les gens ont très peur, ont l'impression que c'est pas pour eux la philosophie. Donc, j'essaie de leur montrer qu'au contraire, tout le monde peut faire de la philosophie. Donc, grâce à la méditation, il se rend compte que c'est une question de présence. Et ce qui est absolument frappant, c'est comment cette expérience de la philosophie qu'ils font les déplace. C'est pas acquérir de nouvelles connaissances, c'est, je pense, en effet, grâce au contact avec des grands textes, comment on est déplacé et qu'on voit le monde autrement, on voit sa vie autrement. Et c'est ce déplacement qui me semble salutaire aujourd'hui.
Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Nantes, bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
Merci.
Alors, vous avez suivi des études de philosophie, c'est ça ?
Alors, il y a très longtemps que je suis retraitée. Et ça permet de sentir aussi comment ça peut traverser et construire quelqu'un. C'était en première année de fac, un tronc commun, philo, psychosociaux. C'était un cours des travaux dirigés de philo. Donc, on était 80 à peu près. Mmh. Et l'enseignant avait un discours un peu obscur. Bon. Mmh. Et petit à petit, les étudiants quittaient le cours. Et ça s'est fait toute l'année. Hein. Alors, moi, c'est une interprétation que j'ai eue, qu'il avait peut-être découragé. On se retrouvait une petite vingtaine, Et là, il avait dépassé son temps de cours, il continuait. Et là, il nous proposait sur un sujet, un thème de nous exprimer, fallait oser le faire, parce qu'on avait sans doute, on avait une pensée pas bien construite, ce qu'ont dit certains de vos participants. Donc fallait oser le faire, et à ce moment-là, il questionnait. Et fallait argumenter jusqu'à ce qu'on puisse plus tenir, presque. En tout cas, cette expérience, je pense, a été fondatrice pour moi. C'est avoir une, quand on a une pensée, elle est un peu bancale, un peu brute. Et c'est comment on apprend soi-même, hein. En tout cas, ça m'est resté comme enseignement, comme exercice. C'est apprendre à argumenter sa pensée. Et si cet exercice m'est resté à travers le temps, ben je trouve que si c'est ça la philo, c'est constructeur, quoi, voilà.
Guillemette Adissino.
Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord, mais moi je pense à ma terminale en philo. Il y a quelque chose, en revanche, qui est totalement, enfin, affolant. C'est que quand on se met donc à se questionner, le professeur vous dit alors, Descartes, vous répondrez ça. Freud, vous répondrez ça. Kant, lui, pense ça. Hegel, ceci. Spinoza, cela. Et donc on se dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut voter pour Spinoza ou Hegel? Ou est-ce qu'il faut faire une synthèse de tout ça, mais est-ce qu'on en est capable? Enfin, c'est ça qui est à la fois fascinant, et en fait un territoire en même temps totalement... on se sent aussi désarmé dans cette notion de... Mais qui croire? Qui croire?
François-Xavier Bellamy.
Et c'est là que la philosophie est fondatrice d'une liberté, c'est-à-dire que les problèmes devant lesquels les problèmes devant lesquels elle nous oblige à nous interroger ne seront jamais refermés. La science ne referme pas non plus ses problèmes. De ce point de vue-là, elle n'a pas de prévalence sur la philosophie. La science n'aura jamais fini d'élucider la question de savoir ce qu'est la matière, par exemple. Mais en revanche, elle nous permet de faire des progrès dans cette exploration. Et de la même façon, la philosophie ne refermera jamais ses problèmes. Nous n'aurons jamais trouvé le secret définitif et ultime du bonheur. Et de ce point de vue-là, le philosophe qui se prétendrait expert ou technicien trahirait sa discipline. En revanche, nous pouvons progresser dans notre propre recherche de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est la justice, de ce qu'est le travail. Et de ce point de vue-là, la pluralité des philosophies est une manière pour nous d'appréhender la complexité de ces questions et de cheminer dans notre propre liberté vers la vérité.
Fabrice Midal.
Ce qui est très émouvant dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est comment un cours de philosophie, des années après, l'a touché profondément. Et quand je parle avec beaucoup de gens, il y a eu des fois, leurs cours les ont ennuyés, mais il y a eu un moment, peut-être un cours, qu'a changé quelque chose dans leur vie. Et je crois que ça, c'est la philosophie.
Guillaume von der Weyde.
Oui, c'est drôle parce que ce qu'Isabelle a dit, c'est que le cours, tout le monde partait et que ça a commencé à l'intéresser quand elle a parlé. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que finalement, le problème, c'est la philosophie elle-même. Vous dites, il y a un problème d'humiliation. Il y a un problème de langage. Finalement, la philosophie, comme discours séparé du réel, pose problème. On essaie de le transmettre, mais il a du mal à rentrer. Comment faire pour avoir accès aux auteurs? Tout ça, ça tourne autour du commun et du langage. Et donc, il me semble, enfin, en tout cas, moi, c'est ma pratique, c'est que en partant des élèves, en partant des questions, d'ailleurs, souvent, c'est pas moi qui pose les questions, c'est eux, et on prend leurs questions, on les traite, voire la question de la bifle qui m'a été...
Ouh là là, on va pas expliquer ce que c'est à 10h39.
Bon, qui m'a été... le JDD lui-même m'a appelé en me disant, mais est-ce que vous voulez vraiment mettre cet exemple? Est-ce que vous y tenez absolument? J'ai dit oui, donc c'est passé. Et donc, traiter des questions pour susciter un discours qui soit pas un discours d'auteur, qui soit pas un discours rapporté, de générer de l'intérieur des discours des gens eux-mêmes, d'un langage spontané qui peut être formaté, mais qu'on va justement essayer de déconstruire pour arriver à des vérités qui sont faites par les gens eux-mêmes. Et ensuite, dans un dernier temps, finalement, dire bah finalement, Spinoza a dit la même chose que vous, d'une façon peut-être qui peut vous aider à mieux le comprendre.
Merci beaucoup Isabelle de Nantes de nous avoir appelé. Très vite, j'aimerais qu'on revienne sur la question du vocabulaire obscur, des gros mots philosophiques dont parlait Onfray. Un autre philosophe, Michael Fessel, fait remarquer qu'on admet sans sourciller de ne rien comprendre à la physique quantique ou à la biologie moléculaire avec son vocabulaire propre. Pourquoi est-ce que la philosophie n'aurait pas également un vocabulaire très technique, très technicien, qu'il faudrait s'efforcer de comprendre ?
Mais c'est très beau qu'on n'accepte pas que la philosophie soit obscure, et on a raison de ne pas l'accepter, puisqu'encore une fois, elle appartient effectivement à l'activité de... Ce qu'on appelle philosophie, c'est seulement la vie interrogée, comme le disait Socrate. Et donc, il n'y a aucune raison que la philosophie soit confinée dans un langage obscur. Le vocabulaire technique qu'elle emploie parfois mérite d'être explicité, et c'est le moment peut-être de demander pardon pour tout ce que notre corporation a pu laisser derrière elle d'incompréhension auprès des élèves de terminale.
Allez, dites-nous vous aussi s'il faut vulgariser la philosophie au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. Et bien sûr sur notre page Facebook.
Flèche en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui, l'amour de ma vie. Je sais que c'est lui, tout me le dit. En lui, tout est infini, le jour comme la nuit, je suis à lui.
Juliette Armanet, ça fait plaisir à Guillemette Odissino.
Oh oui.
L'Indien.
Je suis ravi d'être ici.
Grand bien vous fasse.
Eh bien, messieurs, nous allons faire une grande équipe.
Fantastique.
Sur France Inter.
Je savais pas que vous pêchiez.
Ah non, je pêche pas.
Vous pêchez pas?
Ah non, j'aime pas ça, la pêche.
D'accord, oui.
Ah, mais c'est à cause de la canne, c'est ça?
Ben, c'est-à-dire, oui, on a tout de suite envie de penser à la pêche, quoi.
Ah non, mais c'est juste une canne et un fil, hein.
Une canne et un fil.
Et un caillou au bout du fil pour tendre le fil.
Sans indiscrétion, vous venez pourquoi exactement?
Moi, la canne, ça m'aide. Je visualise le caillou dans l'eau. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Moi, le caillou, le fil, le lac, le ciel. C'est entier. Vous comprenez? C'est bien fini. C'est pour ça, moi, je me dis, c'est dans ces moments-là qu'on peut bien comprendre des trucs. À quoi ça sert, la canne?
Ben, soyez gentil d'éclairer ma lanterne, parce que pour moi, je vous avoue que ça reste quand même assez flou.
En fait, ça sert à rien.
Ah.
Du coup, ça nous renvoie à notre propre utilité. L'homme face à l'absurde.
Petite philosophie de la canne à pêche dans cet extrait de la série Kaamelott, 10h45, faut-il vulgariser la philo? C'est notre thème ce matin avec une bande de profs de philo, Fabrice Midal, François-Xavier Bellamy et Guillaume van der Weyde. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Briançon, bienvenue.
C'est bien ça.
Et vous êtes professeur des écoles?
J'étais professeur des écoles, je suis à présent à la retraite et je vous ai appelé pour vous parler de l'expérience que j'ai eue avec mes petits élèves. J'étais en école primaire, j'avais des CE1, CE2 et j'avais introduit la philo. Donc nous appuyant sur les petits livres, les philo.
Elisabeth, vous savez quoi, Elisabeth, on va, parce que la liaison n'est pas très bonne, on va vous reprendre dans quelques minutes, hein, le temps que l'on rétablisse une bonne liaison. On vous reprend tout de suite. Guillaume van der Weyde, vulgariser, c'est mépriser les gens à qui on s'adresse, considérer qu'ils ne sont pas capables d'efforts.
Alors vulgariser, c'est tout le contraire. Alors vulgariser, c'est évidemment un mot qui a une mauvaise réputation, qui a une connotation négative. Il me semble encore une fois que il y a deux façons de faire. Il y a une façon de faire vivante, personnelle, et il y a une façon de faire à partir de la tour d'ivoire et qui veut dispenser un savoir. Vulgariser, c'est pas mépriser. Vous parliez de trahir tout à l'heure. Je crois que la plus grande trahison, c'est la simulation. C'est la simulation, et après on va probablement y venir, vous vouliez être polémique. la question de l'élitisme de la philosophie, c'est la question de l'école. Est-ce que l'école est là pour faire réfléchir ou est-ce que l'école est là pour conditionner? Il me semble que la philosophie est au centre de cette question, et que si on veut faire réfléchir, on prend les gens au sérieux. Prendre les gens au sérieux, c'est se mettre en danger, c'est laisser la parole aux gens, et prendre cette parole au sérieux. Il me semble que c'est pas vulgaire, c'est tout le contraire.
Et il est bon, on peut disserter sur l'obsession de la course à pied, sur la qualité des chansons de Nekfeu. L'idée, c'est quoi? C'est de, en ce qui vous concerne, de parler de ce qui intéresse les élèves, au risque peut-être de la démagogie ou de flatter les élèves.
Alors c'est une chose qu'on peut me reprocher, puisqu'effectivement je pars de ce qui intéresse les élèves. Alors ce qui intéresse les élèves, c'est quoi? C'est les choses qui nous intéressent aussi. Le sexe. Jules. Vous parliez de chanteurs, j'ai une question sur Jules, c'est la question du beau. Pourquoi pas parler du beau à propos de Jules? La question du beau, et on revient aussi à l'étude sociologique, est-ce que le beau c'est une forme d'élitisme qui veut s'imposer aux gens, comme par exemple le dénonce Bourdieu, en disant finalement on ne voit pas d'ouvriers au musée, ou est-ce que le beau c'est quelque chose qui est accessible à tous? Et je reprendrai l'idée que vous avez faite tout à l'heure, et la philo, la philosophie, est-ce qu'on peut se dire philosophe quand on est prof de philo? Il y a un vrai problème. On a le même problème avec l'art. Est-ce que l'art c'est quelque chose de beau? Est-ce que un retraité qui fait une croûte dans son garage, est-ce que c'est de l'art? On dit non, c'est de l'art si c'est beau. Et au fond, l'art, ça serait une œuvre réussie. Une œuvre ratée n'aurait pas le droit à l'appellation art. Est-ce que la philosophie, c'est pareil? Est-ce que si je réfléchis avec un petit de 7 ans, est-ce que c'est la philosophie ou est-ce que c'est un essai de philosophie et c'est pas réussi? Alors, c'est pas la philosophie, c'est vulgaire.
Alors, j'aimerais citer un professeur de philosophie, Simon Perrier, qui nous dit « Si pour le plus grand plaisir de son public, on parle une langue immédiatement acceptée, cela signifie qu'on n'a fait que le flatter, lui dire ce qu'il attendait à s'entendre, le conforter dans des opinions. » François-Xavier Bellamy, vous êtes d'accord avec ça?
Ah mais c'est étonnant, je pensais justement en vous écoutant à un grand mythe qu'il importe de déconstruire, qui est celui de l'immédiateté. En fait, nous ne savons pas immédiatement ce que nous pensons, et nous ne savons pas immédiatement même ce qui nous intéresse. Et c'est toute l'expérience magnifique de la philosophie qu'en fait, en étant confronté à quelque chose qui nous dépasse, nous découvrons ce qui nous intéresse profondément. La vérité, c'est que quand on demande à un élève de donner sa réponse à une question qu'on lui pose, il va généralement produire une opinion commune, bien plus que sa propre pensée. Et déconstruire cette opinion commune, c'est lui donner les moyens d'accéder à sa propre pensée, mais ça n'est pas du tout immédiat.
Elisabeth de Briançon, de retour avec nous, institutrice à la retraite. Donc, vous organisiez des goûters philo dans vos classes, dans votre classe de primaire, c'est ça?
C'est bien ça, c'est bien ça. Le vendredi, en fin de journée, de la récréation, nous faisions un petit goûter au point que les enfants n'avaient plus envie de sortir en récréation. Et après, nous consacrions la dernière heure de la semaine à un cercle philo au sens propre du terme, puisque nous asseyions par terre et en cercle, etc. Et nous abordions des sujets, alors c'était soit des sujets amenés par moi en fonction de ce qui s'était vécu dans la semaine, soit c'était des sujets qui les intéressaient, les garçons, les filles, la liberté. la beauté, la nature, je sais pas, enfin la mort, bien sûr. Et donc, les enfants étaient particulièrement heureux de ces moments. Et ça leur a apporté énormément, parce que dans la classe, il y avait
Elisabeth,
énormément
je suis obligée d'interrompre,
de cohésion.
Elisabeth, je suis obligée d'interrompre, hélas, la liaison est vraiment trop mauvaise. En tout cas, merci de nous avoir appelé de Briançon. Fabrice Midal, sur cette initiative de goûter philo du côté de Briançon.
Ce qui est toujours passionnant, c'est cette possibilité que on invite quelqu'un à interroger, à parler. Et je crois que ça pose vraiment la question, est-ce que la vulgarisation, c'est simplifier un discours ou c'est revenir à cette forme d'interrogation? Et on voit, et c'est sûr qu'on est un peu trompé, parce qu'on voit aujourd'hui, il y a des livres qui sont juste une simplification de pensée philosophique, mais à mon avis, ça n'aide pas profondément. Et puis, il y a d'autres livres ou d'autres discours qui tentent d'incarner ce qui les a mus.
Bonjour Léo, vous appelez de Metz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes jeune bachelier.
Exactement.
Alors, votre réflexion sur notre thème du jour, faut-il vulgariser la philo?
Ben moi, je pense que c'est vraiment important, surtout dans les lycées. Comme vous savez, je suis bachelier, j'ai été élève dans une école, dite élitiste. Et j'ai dû passer par l'épreuve de philo. Et par contre, la philo, j'ai vraiment décroché très rapidement. Dû au fait de ce vocabulaire qui a été hyper recherché. Disons que certains profs et beaucoup de profs ne cherchent pas à simplifier ou à la montrer sur des exemples de vie communes, comme le fait, comme j'ai entendu un collègue à vous qui dit qu'il se basait sur la pensée des élèves et après basait son cours sur ça. Certains profs le font pas et je trouve que c'est dommage parce que ça permettrait aux élèves de comprendre mieux et d'être plus intéressés par une matière qui est vraiment, après avoir repensé et avoir réussi à me faire ma propre pensée et avoir réussi à me forger complètement une philosophie propre, sans cours parce que les profs avaient trop, ne vulgarisaient pas assez à mon goût, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui devrait être beaucoup plus fait pour que les élèves comprennent que voilà, la philosophie c'est pas ennuyant et c'est pas du tout quelque chose de saoulant entre parenthèses pour les
mais
élèves,
ça quoi. Demande ça quand même. Mais Léo, la philosophie demande quand même un petit effort, il me semble.
Mais c'est beau aussi de se confronter à des textes difficiles. Quand j'avais 17 ans, j'étais pris par un texte de philo, je comprenais pas, et en même temps ça me parlait, je comprenais qu'il se jouait quelque chose de plus profond que simplement lire un journal.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, François-Xavier Bellamy. Votre prochaine soirée philo au Théâtre Saint-Georges à Paris, c'est quand? C'est
le 2 octobre.
Et le thème?
Et le thème sera, première question de l'année, est-il raisonnable de chercher une vérité?
On va y aller. Merci beaucoup Guillaume van der Weij d'être venu ce matin. Merci également. Fabrice Midal, tout Merci. De suite, la petite mythologie d'un objet du quotidien avec Éric Libio de l'Express. Éric Libio, rédacteur en chef à l'Express. Alors cette semaine, dans votre petite mythologie d'un objet du quotidien, le cartable.
Et oui Ali, pour cette rentrée, je ne recule devant aucun défi. C'est à la grande saga du cartable, du sac à dos et du sac à main que je vais m'attaquer. Le cartable d'abord est le premier signe extérieur de scolarité, façon de dire l'entrée dans un cursus commun hiérarchisé et normé, car le cartable n'est pas un fourre-tout. Il y a des espaces aménagés avec rabat, fermeture et bretelles. Il y a un chef. C'est le cahier et la règle, c'est la règle. Le stylo est dans la trousse est dans le cartable est sur le dos et les vaches sont bien gardées. Et puis on grandit et de cartable, on passe au sac à dos pour l'ado. Donc un sac qui porte bien son nom, sac à dos.
Oui.
C'est un gentil fourre-tout bordélique boutonneux, mais à fermeture éclair. Du cartable au sac à dos, c'est la lutte des classes à la portée de tous. Le cartable est primaire et hiérarchisé, le sac à dos, c'est la vie comme elle vient, un peu en vrac. Je note d'ailleurs qu'à l'image d'un sac à dos fourre-tout, on a tendance à parler des ados comme un grand groupe fourre-tout, alors qu'à cet âge, chacun commence à prendre conscience de sa singularité. C'est le paradoxe de cet âge. Et si l'ado en a plein le dos d'être signé, alors si nié, hein, pas nié, nié, eh bien c'est normal. Et puis on grandit et de sac à dos, on passe, alors là on a le choix, entre le sac à dos, la sacoche ou le cartable. Le sac à dos pour vieux, qui est censé faire jeune, jeune dans sa tête, jeune dans son corps, jeune dans son dos, un côté insoumis peut-être. Et puis l'époque, qui se transforme toujours un peu plus, ou se réforme, on ne sait plus aujourd'hui, donne une place plus centrale au centre et elle a remis au goût du jour la sacoche en bandoulière, moitié sac à dos, moitié cartable. Plus décontracté que le cartable, plus chic que le sac à dos, c'est le sac à hanches. Observez bien le sac à hanches, il fut un temps où l'on portait la sacoche en bandoulière sur l'épaule droite ou sur l'épaule gauche. Aujourd'hui, on la porte en diagonale, la bandoulière traversant le corps de l'épaule à la hanche opposée, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Il paraît que c'est pour éviter le vol de sac, mais si ça se trouve, c'est un positionnement politique, un sac macroniste dont on ne sait d'ailleurs pas s'il va être encore à la mode très longtemps. Mais on peut aussi voir le sac à hanches comme un moyen de faire véritablement corps avec l'objet. L'homo travaillus souligne le mélange des genres entre le privé et le public, le travail et le loisir. C'est l'ubérisation du sac. Et puis, il y a le cartable pour adultes, dit sac à main en cuir retourné, ciré de près à l'huile de bergamote, ligne élégante et surpiquage, forme chic et arrondie avec poignée ad hoc qui se porte avec le costard cravate. Pour résumer un peu rapidement, peut-être c'est la version masculine du sac à main féminin après le mariage pour tous, le sac à main pour tous. Et oui, Ali, de l'homo cartablus à l'homo sacamanus, les objets macronisés, ubérisés ou en version Taubira, racontent le monde. On a les petites mythologies qu'on mérite, mais on vit une époque formidable.
Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver votre petite mythologie des objets du quotidien tous les vendredis avec l'Express. Et pour finir, le bonus de la fin pour bien terminer la semaine, c'est la fausse pub de François Audouin.
Avant, un licenciement, c'était ça.
Martino, vous êtes viré!
Mais grâce au séminaire La Philo pour les Filous, organisé par l'Association des directeurs de ressources humaines humanistes, vous apprenez à licencier avec style et doigté.
Vous savez, Martino, comme le dit Schopenhauer, votre vie dans cette entreprise oscille entre ennui et souffrance. Vous seriez bien mieux dans une autre société, ou chez vous.
Avec le séminaire La Philo pour les Filous, vous transformez une nouvelle tragique en perspective d'avenir pour vos ex-collaborateurs.
Mais qu'est-ce que je vais devenir? Vous direz, deviens ce que tu es.
J'ai donné 20 ans à cette boîte.
À ça, comme dit Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Le séminaire La Philo pour les Filous, une méthode de bourrage de mou qui a fait ses preuves dans de nombreuses entreprises du CAC 40.
Vous êtes vraiment un enfoiré.
Et vous avez raison. D'après Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme.
Je vais te tuer.
C'est bien ça. Et Epictète le dit d'ailleurs. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux.
Attention, durant le séminaire, il est conseillé de participer également à nos ateliers d'autodéfense.
Aristote avait raison. En toute chose, c'est la fin qui est essentielle.
Pour des plans sociaux réussis, faites confiance à l'Association des directeurs de ressources humaines humanistes.
La fausse pub de François Audouin. La technique ce matin, Mehdi Fatah et Vincent Godard. Lundi, yoga, tai chi, qigong. On s'intéresse au gym 12 qui soigne avec le mensuel Ça m'intéresse. Questions, témoignages, grand bien vous fasse à radiofrance.com. À suivre, Nagui et sa bande.